RFI.
Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Enfin, tout le monde ne sait pas sûr. J'en vois au moins deux autour de la table qui ont passé tout leur week-end à attendre le coup d'envoi d'un match qui n'a pas eu lieu. Bonjour, Carlos Bianchi.
Bonjour. Ah, il n'a pas eu lieu?
Mais non.
Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vu alors?
Vous avez regardé le mauvais match. La finale de la Copa Libertadores, reportée d'abord de samedi à dimanche, et puis reportée de dimanche à on ne sait pas quand, puisque ce River Boca est en attente de reprogrammation. Finale 100% argentine, le match de l'année, le match de la décennie, peut-être de toute une vie. Bonjour Réfé.
Bonjour Christophe.
Pas trop frustré?
Un peu quand même.
Et que dire de Salim Bongali? Bah, tout simplement qu'il a tellement attendu notre confrère de RMC Sport de pouvoir diffuser ce match qu'il s'en est même pas encore remis, qu'il va nous rejoindre en cours d'émission. Enfin, on l'espère. Dans quelques minutes, nous allons donc revenir sur ce scénario invraisemblable. Imaginez une finale de Ligue des Champions en Europe ou en Afrique qui ne peut pas avoir lieu à cause de violences d'avant-match. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en Amérique du Sud. On va s'attarder sur ce rendez-vous manqué. Bonjour Hervé Penaud.
Ah, et puis moi, j'ai vu Amiens-Marseille. Il y avait une très bonne ambiance aussi. Bonjour à tout le monde, évidemment.
Et vous avez suivi aussi cette finale aller de Coupe de la Confédération.
Absolument.
Qui, elle, a bien eu lieu. L'AS Vita Club, le problème, c'est qu'il n'y était pas vraiment.
Oui, c'est ça. Elle a eu lieu, bah, pas complètement. C'est-à-dire, elle a eu lieu surtout pour le Raja Casablanca, un petit peu moins pour l'AS Vita Club.
3-0 pour le Raja de Casablanca, qui prend une sérieuse option sur le titre. Ce sera un vrai défi dimanche prochain pour la deuxième manche pour V-Club. Una Liga Loca. Le championnat d'Espagne est un petit peu fou en ce moment, avec à l'issue de la 13e journée un classement dominé par le Séville FC et un top 5 où il n'y a même pas le Real Madrid, corrigé 3-0 à Eibar. Au sommaire encore, Florian Thauvin est-il sous-coté en Europe? L'attaquant de l'OM a signé un triplé ce dimanche dans le match que vous évoquiez, Hervé, à Amiens. Et puis en fin d'émission, nous irons au Ghana où Olivier Pron suit avec passion la CAN féminine. Les demi-finales ce mardi opposeront le Mali à l'Afrique du Sud et le Cameroun au Nigeria. En jeu, un titre, bien sûr, mais aussi des places à la Coupe du Monde. Radio Foot, préparé avec Pierre Guérin et Laurent Salerno. Nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel.
Un error que ve Ingeder, Sarabia se mete al área, va Sarabia, pisa para adentro, va por afuera, levanta centro, ahí está André Silva, ¡gol!
Peu de musique sévillane ne nuit pas pour saluer la position du Séville FC, donc leader de cette Liga. Alors, c'est une position qu'ils ont déjà occupée cette saison. On a entendu le but d'André Silva. Victoire sur Valladolid, 1-0. Ils sont à leur place, messieurs, ces Sévillans, là, dans cette Liga.
Yo creo que hicieron un parcours très régulier. La question est là. Et Barcelone, qui n'est pas si costaud comme il était dans le passé. Atlético, qui défend même chez eux pendant 90 minutes. Et Real Madrid, qui ne marche pas.
Alors, on va y venir, au gros, oui.
Oui, alors à la fin, je pense que Séville, il mérite d'être là.
Où est la grosse force, Alejandro Valente, de ce Séville FC en ce moment?
Je pense que quand même Séville profite un peu de la défaillance d'autres équipes, parce qu'ils ont quand même perdu 3 matchs. Mais bon, 3 matchs sur 13, c'est quand même pas rien pour être leader. Donc quelque part, C'est un peu problématique, mais bon, ils profitent du fait qu'ils évitent les matchs nuls, que c'est une équipe qui va de l'avant, qui essaye de gagner ses matchs, qui court des risques, qui en prend aussi beaucoup de buts, mais qui est très joueuse, qui a posé pas mal de problèmes au Barça, par exemple, il y a pas si longtemps que ça, et en championnat, ou comme nous. Et c'est une équipe qui attaque bien, qui a des joueurs, des grands talents. Il y a Ben Yedder, dont on parle régulièrement, mais bon, c'est une équipe qui arrive quand même à être à la hauteur de cette Liga qui est quand même un peu étrange et avec beaucoup de surprises en permanence.
Ouais, on va revenir sur ces surprises. Hervé Penaud, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe effectivement? Alors André Silva.
Oui, c'est ça, André
Silva.
C'est
un peu le joueur qui brille.
Oui, ce que j'allais dire, c'est le joueur qui brille, c'est celui qu'on redécouvre hein, parce qu'on savait que c'était un joueur de talent mais qui avait pas forcément réussi ces derniers temps.
Portugais
absolument, qui était en Italie et qui a du potentiel, on savait qu'il allait vite, était capable de marquer des buts. Maintenant, il est libéré visiblement.
Il n'était pas régulier,
il manquait de régularité.
Il a eu une saison compliquée au Milan AC.
Milan, ça s'est très mal passé.
Et même à la sélection du Portugal, il n'est pas régulier.
Et là, visiblement, le système de jeu, puis avec un entraîneur qui a quand même la cote. Hein,
parce qu'il n'y a pas des grandes stars. Il y a Banega, peut-être, mais ce n'est pas une star non plus.
Oui, ce n'est pas ce qu'on appelle une star, surtout quand on voit le calibre des joueurs dans les autres équipes. Mais surtout, ils profitent, et tant mieux pour eux d'ailleurs. Du jeu d'échecs entre les gros, parce que là c'est rare de voir la Liga à ce niveau-là. Je pense que c'est la première fois depuis que je la suis que je vois les gros autant en difficulté, mais d'une certaine manière un peu tous. Alors c'est vrai que le Real un peu plus que les autres, mais le Real n'est qu'à 5 points du leader.
Alors vous dites
c'est pas non plus un gouffre.
Vous dites ils profitent des défaillances des autres, mais bon, le Séville FC a quand même battu le Real 3-0 en championnat.
Bien sûr. Et Ibar aussi a battu.
Je l'attendais celle-là. Je l'attendais.
C'est pas un miracle en soi. Ouais. C'est pour ça. Mais il faut être là. Et puis je vous dis, un entraîneur qu'on connaît pas trop, qui apparemment est très prometteur. Mais maintenant, sur la longueur, j'ai quand même du mal à imaginer qu'à un moment, Barcelone, l'Atlético Madrid et le Real Madrid ne se réveillent pas. Ça me paraît compliqué.
Surtout Barcelone, parce que moi, à Barcelone, je le vois pas cette année faire une grande course. La champion.
Non, moi non plus.
Et pour moi, je le vois pas si costaud. Alors, je pense que Barcelone, au championnat, il doit être là présent.
Alors, le Séville, vainqueur de 3 Ligues Europa, si on prend les 4-5 dernières années, 3 Ligues Europa consécutives, 2014, 2015, 2016. Sur la saison dernière, quart de finaliste de la Ligue des Champions, excusez du peu. Donc, vous ne les voyez pas comme prétendant tout de suite.
On ne dit pas que c'est une petite équipe, parce que les équipes espagnoles, de toute façon, vous savez, les 5-6 premières équipes espagnoles, c'est toujours des grosses équipes. Mais quand vous avez en face de vous l'Atlético, quand vous avez le Real, quand vous avez alors le Real, Barcelone, à un moment, bien sûr,
même Valence.
On regarde le match Atlético-Barcelone, par exemple, Barcelone-Atlético. C'était un non-match. Il n'y a pas eu de match en fait. Hein. C'est-à-dire que l'Atlético a décidé de rester à 11 derrière.
Oui, mais c'est parce que l'Atlético a refusé le jeu.
Donc effectivement, tout ça, c'est dans un mouchoir. Personne ne prend de risque, mais à un moment donné, de toute façon, ça va quand même s'ouvrir. Oui. Barcelone va recommencer à gagner. Le Real, c'est une interrogation. Je pense que le Real, c'est des trois équipes, celles sur lesquelles on peut avoir le plus d'interrogations.
Le Real, ça dépendra s'il amène quelqu'un au mois de janvier. Tu sais pourquoi je te dis? Parce qu'ils vont souffrir les buts qui marquait Ronaldo.
Bien sûr.
Il y a une grosse quantité.
Attendez, parce que vous avez tellement envie de parler des grosses équipes que, allez, on va en parler.
Ah, voilà, quand même.
Amiens-Marseille.
Amiens-Marseille. Ça, c'est la Ligue 1.
Avant peut-être.
C'est pas la Ligue A.
Parler des grosses équipes, il faut quand même, parce qu'on aime bien taper sur un personnage en Espagne qui s'appelle Javier Tebas, qui est le président de la Ligue espagnole. Qu'on critique beaucoup parce qu'il s'en prend régulièrement au club français et notamment au Paris Saint-Germain. Mais ce monsieur a au moins un grand mérite, c'est qu'il a imposé aux grands clubs une meilleure redistribution de l'argent issu des contrats télévision. C'est-à-dire qu'avant, le Real et Barcelone prenaient à eux seuls plus de la moitié de l'argent généré par la Liga.
Oui.
Aujourd'hui,
ce qui entretenait le déséquilibre.
Ce qui entretenait forcément un déséquilibre. Aujourd'hui, il y a une distribution beaucoup plus similaire à celle qu'on voit en France.
Je pense que c'est au classement, non?
Et du coup, Alexandre, ça permet aux équipes qui ne sont pas très réputées d'être plus compétitives par rapport aux gros.
C'est, ça dépend du classement, non?
Ça dépend du classement, etc. Mais avant, c'était vraiment très déséquilibré. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus équilibré.
Voilà ce qui nous donne dans ce...
Ah, bravo, t'es basse.
Oui, on
applaudit t'es basse. Non, pas t'es basse, on va l'applaudir à Salim.
Ah, Salim.
Ah, Salim.
Bonne arrivée.
Bravo.
Alors, dans le top 5 donc, de cette Liga, on trouve Séville, le Barça, l'Atlético, ok, mais aussi Alavés et l'Espagnol. Donc, ça illustre ce que vous disiez, Réfé. 5 équipes qui, quand même, se tiennent en 5 points, donc ça reste comme on disait très serré et le Real est juste collé derrière. D'ailleurs, puisqu'on parle, on évoque cette hiérarchie qui est un petit peu bousculée là en Liga, on peut aussi signaler que dans le classement des buteurs, il y a un certain Christian Stuani qui est actuellement premier avec 10 buts, l'attaquant uruguayen de
Gérone. Qui est d'ailleurs au même niveau que le Real Madrid au classement, c'est-à-dire le même nombre de points. Mm-hmm. Et avec cet attaquant uruguayen qui normalement marque et brille moins qu'un Suarez ou qu'un Cavani, mais qui aujourd'hui marque plus qu'un Suarez ou qu'un Cavani.
Alors, et Atlético... avec un très bon gardien marocain d'ailleurs, Bono. À Gérone.
Oui, international.
International, monsieur.
Bonjour Salim.
Bonjour messieurs.
Bonne arrivée.
Mais merci à vous. Quand vous évoquez Christian Stuani, il n'a pas laissé un souvenir impérissable en Angleterre. Il a joué 2 saisons à Middlesbrough. À Middlesbrough, on disait qu'est-ce que c'était que cet attaquant. On ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Après, un Uruguayen qui va en Angleterre, un Sud-Américain qui va en Angleterre, c'est pas toujours évident. Les repères et autres. En Espagne, ça se passe beaucoup mieux pour lui.
Oui, qu'on avait aperçu Stuani à la dernière Coupe du Monde. Hein, quand Cavani s'était blessé, c'est lui qui avait, je crois même, été titulaire contre l'équipe de France. Hein.
Ouais.
Voilà. Alors cet Atlético Barça, qu'est-ce que vous en dites? C'est un bon résultat finalement compte tenu du scénario pour le FC Barcelone, un partout.
Jean-Menoué.
Oui.
Jean-Menoué parce qu'il y a on dirait un match d'Italie. À l'époque, ça fait 30 40 ans quand il y avait une équipe qui se mettait les 11 derrière et pourtant je dis je me lève, je le fais chapeau à Simeone parce que en 6 7 ans ce qu'il a fait avec Atlético Madrid, c'est extraordinaire. Mais quand même, ça me fait pas plaisir de voir des matchs comme ça, dans lesquels tu vois une équipe qui tripote la balle pendant 95 minutes, et que par hasard, parce que Messi, la passe de but qu'il fait Messi, il la touche avec la pointe du pied, il y va Dembélé. Mais je dis, sinon, Barcelone, qui l'a fait tout le match, il rentre chez lui avec une défaite. Mm-hmm. Et tu te demandes, pour le football, qu'est-ce que c'est beau? Jouer pour le spectacle ou pas jouer pour le spectacle? Je me suis ennuyé, je dis la vérité.
Oui, c'est...
Ouais, Hervé.
C'est vrai que parfois, moi, je mets toujours en avant la cohérence du système de jeu. Une nouvelle fois, la cohérence du système de jeu de Simeone. Mais à un moment aussi, le football, c'est jouer au football. Là, j'ai rarement vu l'équipe d'Atlético rester autant derrière.
Chez lui.
Vous aviez 11 joueurs dans les 35 mètres. Alors, ça demande des efforts invraisemblables à Griezmann, qui en deuxième mi-temps, d'ailleurs, fait une percée, je sais pas comment il fait, d'ailleurs. Et il a failli, d'ailleurs, passer la balle à Diego Costa, qui est un peu en retard, mais c'est logique, parce que quand vous faites des courses de 70 mètres, à un moment, vous êtes un peu fatigué quand vous revenez. Mais il y a rien eu. Après, sur un coup de pied arrêté, évidemment, qu'on est capable de marquer, ils ont marqué. Et puis après, il y a un match qu'ils ont failli gagner. Heureusement que Barcelone est égalisé. Je dis pas ça en tant que supporter de Barcelone, mais en tant que supporter du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, on préfère quand même qu'une équipe qui prend des risques, elle ait la possibilité de s'imposer.
Ils ont changé les règles. Pourquoi faire? Pour qu'ils aient plus de buts. C'est vrai? L'hors-jeu, la même ligne n'est plus hors-jeu. Ah bon? On ne peut pas te prendre un maillot, on ne peut pas te donner un coup par derrière si tu t'en vas au but, parce que tu es expulsé, dernier homme. Toutes ces choses-là, quand tu vois un match comme le d'hier, tu dis, mon Dieu. Ça, c'est à quoi les règles?
C'est pas suffisant. Alors, cette égalisation signée pour le Barça Dembélé, c'est quand même un sacré clin d'œil après la bordée de rappel à l'ordre qu'il a essuyé là ces derniers temps par rapport à son comportement hors terrain. Et ses retards répétés à l'entraînement.
Parce que c'est un joueur qui a des qualités.
Oui, évidemment.
Mais il n'est pas régulier, ça me donne l'impression.
Il y a 3 ans, c'est un joueur qui jouait en national. C'est-à-dire qu'il a complètement explosé. Il a joué 6 mois à Rennes, il part à Dortmund, il se retrouve au Barcelone. Bah, à un moment, évidemment, que vous avez pouvoir la tête qui c'est même pas qui gonfle, mais qui est un petit peu perdu. Alors lui, il ne sait pas ce que c'est que la réalité d'un grand club, est-ce qu'il faut... bien sûr, je suis un peu en retard, en plus il va être un peu tête en l'air, ce qui fait qu'il va falloir le recadrer, le remettre dans le droit chemin. Mais moi, je crois quand même en lui, et puis vous savez, des joueurs de ce calibre-là, il n'y en a pas beaucoup. Alors bizarrement, c'est pas nécessairement à Barcelone que je l'aurais imaginé, parce qu'il n'a pas un jeu de passe, il n'a pas une qualité technique.
Lui, c'est plus pour une équipe comme au Real Madrid qui joue au contre-attaque.
Ah, exactement.
Atlético Madrid même, pour jouer au contre-attaque, parce qu'il peut profiter de sa vitesse.
Exactement.
À Barcelone, lui, malheureusement, il donne toujours le ballon dans les pieds.
Et puis ils ont du mal des fois à jouer avec lui parce qu'il a pas cette qualité de pied. Ah, alors il est très bon techniquement dans l'élimination sur la vitesse, mais c'est pas quelqu'un, vous savez, qui peut jouer tout. Et d'ailleurs, de temps en temps, il lui donne pas la balle parce qu'ils savent pas si elle va revenir exactement comme ils la veulent. Donc c'est compliqué. Mais enfin, s'il arrive à s'imposer là, bravo.
Salim.
Mais une image symbolique tout de même, il y a quelques semaines lorsque Dembélé avait marqué, il avait marqué un but et personne, aucun de ses coéquipiers n'était allé vers lui. Alors là, vous allez me dire c'était la dernière seconde, mais quand on voit Luis Suarez qui lui saute dans les bras et d'autres coéquipiers, les images, ça compte aussi.
Non, mais là j'ai une explication et quelqu'un qui connaît Dembélé qui m'a expliqué ça et qui a eu Dembélé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est Dembélé, lui, il a eu cette égalisation, il était hyper content, il s'est pas rendu compte que quand vous êtes à Barcelone, les joueurs, s'il avait marqué la dernière seconde le but de la victoire, ils seraient tous allés vers lui. Mais il pensait pas à ça, il faut gagner le match. Ils étaient tous revenus déjà dans leur camp pour dire, alors que lui, il le fêtait. Et il s'est rendu compte, non, quand on est à Barcelone, c'est le 2-2, on fête pas, on part vite pour essayer de marquer le troisième.
Qu'est-ce qui s'est passé pour le Real Madrid de prendre 3 buts comme ça à Eibar?
Bon. Mais 3 buts, c'est pas cher payé parce qu'ils auraient pu en prendre 6.
Ouais, c'est ça. Mais le
Ramos,
pire.
Il a dit, hein. Le mental n'était pas là. Ramos, il l'a dit. Nous, mentalement, on n'était pas au match. On n'était pas au match. Quand vous n'avez pas l'envie de jouer le match, tu trouves n'importe quelle équipe et tu mets plein la figure.
Ouais. Mais ça suffit comme explication, ça.
Parce que quand une équipe il n'est pas. Parce que, attention, on dit toujours, tu te mets le maillot de Real Madrid, il faut que tu ailles jusqu'au bout et tu te défonces. Mais ces mecs-là, ils ont gagné 3 Coupes d'Europe déjà.
Ça veut dire que c'est fini, ils ont plus faim.
Non, c'est pas qu'ils sont plus faim. Michel, ils arrivent un jour qui dit bon, aujourd'hui, non, on va gagner avec le maillot.
Mais ça leur arrive plusieurs jours cette saison.
Ça suffit pas, parce qu'on a vu un Real Madrid qui, quand même, ont passé les milieux de terrain comme un boulevard. Bon, l'absence de Casemiro explique peut-être cela. On a vu quand même une défense où Ramos et Varane ne font pas la loi comme avant, où à Marcelo, on ne sait plus maintenant qu'est-ce qu'il fait, mais il ne défend pas, il n'attaque pas. Avec Odriozola qui est quand même très tendre et qui a souffert devant la puissance et la vitesse des joueurs d'Eibar. Et puis en attaque, Benzema était un peu seul parce que Asensio et Bale étaient vraiment aux abonnés absents.
Ouais, et voilà comment le Real se retrouve sixième donc du classement de la Liga à 6 points du Séville FC. Bon, rien d'irrémédiable puisqu'il reste encore 13 journées. Salim.
Juste, quand même, depuis le début de la saison, toute compétition
puisqu'on confondue. Puisqu'on a joué, pardon, que 13 journées.
Tout à fait. Depuis le début de la saison, toute compétition confondue, c'est 7 défaites pour le Real quand même. 5 en championnat, 1 en Ligue des Champions et 1 lors de la Super Coupe d'Europe. Alors certes, c'était un autre entraîneur, c'était Lopetegui. Mais jusqu'à là, je me tourne vers vous parce que vous nous dites, c'est le mental des joueurs qui était défaillant, ils étaient pas dedans. Avec Lopetegui, déjà, on disait, oui, l'entraîneur n'arrive pas à dire les mots, les joueurs sont défaillants mentalement aussi. Ben oui, à un moment donné, c'est de leur faute, c'est pas de l'entraîneur. Et c'est très souvent le cas quand même depuis le début de la saison. À un moment donné, Ramos, Varane, tous les grands joueurs sont défaillants depuis le début de la saison. Beaucoup trop. Carlos.
Et oui.
C'est pas normal.
Est-ce que ils vont te dire, écoute, on vient de gagner 3 Coupes d'Europe des Champions.
Ouais.
On a droit à se tromper. Ils vont te dire.
Donc,
oui, ils ont été 3 fois champion d'Europe.
Il ne faut pas oublier une chose, Carlos.
C'est Eibar,
quand même.
3 intercontinentales.
Et Eibar, on ne sait même pas où c'est en Espagne.
Mais au football, c'est comme ça.
Oui, mais Carlos, pourquoi est-ce que Zidane est parti? Parce qu'il était conscient des limites de cet effectif, d'un besoin d'un renouvellement que la direction du Real Madrid ne lui accordait pas. Et donc, il a préféré ça.
Il avait tout compris, Zidane. Il a dit une chose qui était très, très juste l'année dernière. Il a dit, j'ai pas réussi à faire redémarrer l'équipe en championnat. Parce que la Ligue des Champions, entre guillemets, c'est pas très compliqué.
Ça vient tout seul.
Bon, enfin, vous savez, les joueurs, ils se concentrent pour la Ligue des Champions. Si Ronaldo, vous le mettez en finale de Ligue des Champions, vous mettez même sans entraîneur, il sait à peu près ce qu'il va faire sur un terrain. Et il sera... Mais en revanche, quand vous jouez à Eibar, on va à Eibar. Et effectivement, avec 3 Ligues des Champions dans la poche, on va à Eibar. Et on a beau dire, mais il faut être plus dedans, il faut être plus. Il suffit d'y être un peu moins, mais ça reste des joueurs de haut niveau. Enfin, c'est pas non plus des peintres en bâtiment.
Quand on regarde un petit peu, ils ne sont pas gagnés 3 Coupes d'Europe d'affilée, comme au Real Madrid. Regardez Bayern de Munich. C'est la même situation.
Allez, on laisse le Real dans sa situation actuelle en Liga. On les retrouve un peu plus tard.
Thomas qui va rentrer, Thomas Cassette, son pied fort, Thomas qui va armer la frappe et qui égalise, comme de bien entendu, c'est lui, le grand attaquant de l'OM en effet. C'est Thomas, c'est au fond, du pied gauche, le premier coup franc direct de cette saison de l'OM, de son buteur miracle, Florian Thauvin. Maxime Lopez qui peut la glisser à Florian Thauvin, Florian Thauvin vers le triplé, Florian Thauvin qui réussit donc le triplé dans le temps additionnel, le coup du chapeau.
Voilà, Florian Thauvin, homme du match pour cette victoire à l'extérieur, au stade de la Licorne par l'Olympique de Marseille. Comment ça, quel match? Racontez-nous.
Bah, c'était beau carrière.
Vous avez vibré comme jamais.
Ambiance phénoménale.
Non, c'était... Heureusement qu'il y avait Thauvin.
Oui, heureusement qu'il y avait Thauvin. Un match de Ligue 1, comme on en voit un petit peu trop souvent, malheureusement, cette année. Même si cette journée n'a pas été la plus mauvaise. Franchement, il y a eu des matchs intéressants. Mais c'est vrai que Marseille, ça va pas du tout. Parce qu'en face, quand même, Amiens, c'était terriblement faible, j'ai trouvé. Alors, si vous en sortez sur un Thauvin, heureusement, d'ailleurs, lui était présent. Mais collectivement, il y a encore beaucoup de manque de cette équipe de Marseille. Alors que moi, je ne pense pas que ce soit une équipe si mauvaise que ça individuellement. Simplement, il faut aussi que certains joueurs reprennent un peu le rythme du football. Mandanda, c'est plus le Mandanda qu'on a connu. Ouais. Quand il vous plonge dans l'entrée comme ça, énorme faute d'entrée demain, ça devient compliqué.
Il a fait quelques arrêts après.
Ce qui est terrifiant dans le propos d'Hervé, c'est que donc Marseille vient de s'imposer quand même 3-1 avec Thauvin qui marque un triplé. Et notre premier propos, à juste titre, c'est la qualité de jeu de Marseille, parce que c'est bien beau de marquer 3 buts. Et il faut le faire, marquer 3 buts avec ça, évidemment, un même joueur qui le fait. Mais dans le jeu, qu'est-ce que c'était encore faiblard.
Il n'a pas un grand fond de jeu.
Non, mais c'est ça.
C'est là le problème.
Mais autant l'année dernière, après, on l'a suffisamment dit, les joueurs surperformaient. C'est pour ça qu'on a l'impression, à juste titre, que cette équipe de l'OM était au-dessus. Ouais. Mais là, les joueurs sont revenus à leur niveau. Bon, Thauvin, il y a quelques individualités qui s'en sortent par moment, mais c'est reste très faible. Heureusement que ce n'était que Amiens en face.
Alors Rudy Garcia, juste avant le match, ou plutôt veille de match, avait dit du bien de Florian Thauvin. Il a eu raison, on le réécoute.
Le joueur qui met des buts dans une équipe, il n'est pas obligé non plus d'être dans l'axe. Et puis il y a plein d'équipes qui ont ce genre de joueurs qui jouent plutôt côté, qui mettent plein de buts. Voilà, c'est un joueur hors norme, il est plein de talent, il a surtout beaucoup progressé parce que c'est un garçon intelligent, parce que c'est un garçon qui bosse et parce que c'est un garçon aussi qui est à l'écoute. Et si on a fait une telle saison la saison dernière, c'est aussi parce que il a pété tous les compteurs, comme on dit. Et puis voilà, maintenant que le voilà champion du monde, il faut qu'il garde cette qualité de travail, cette humilité. Il a déjà des super stats depuis le début de saison, mais il va lui aussi repartir vers le haut comme l'Olympique de Marseille.
Et paf, le triplé, ce qui fait 10 buts en 13 matchs de Ligue 1 cette saison. Florian Thauvin, vous le suivez depuis un moment. Il en est où dans sa carrière? On sait qu'il peut être brillant comme hier, mais il a encore un cap à passer.
Lui, il a un problème qui ne peut pas démontrer toutes ses qualités à niveau de la sélection. Parce qu'à la sélection, on les donne quelques minutes.
À la Coupe du Monde, il a joué quelques petits bouts de matchs.
Mais c'est là le problème, parce que bon, en championnat, même la Coupe d'Europe l'année dernière, il n'a pas fait de grands matchs. Il est arrivé à la finale, Marseille quand même. Ouais. Mais il n'a pas eu en grand la soirée de Thauvin.
C'est vrai.
Quand tu réfléchis.
Alors, les stats sont impressionnantes quand même. Anton, qui est notre stagiaire cette semaine, s'est penché sur les stats de Thauvin. Il a retrouvé les stats de l'année dernière. 35 matchs de Ligue 1, 22 buts, 11 passes décisives. Mmh. Et en Ligue Europa, 15 matchs, 4 buts et 4 passes décisives. C'est quand même pas mal.
Dans une équipe qui n'a pas de grands attaquants.
Non.
Et il n'a pas d'attaquant pour moi. Parce que Thauvin, c'est pas un pointe-pointe, disons.
Non, c'est un joueur de côté.
Et après, les attaquants qui sont des pointes, ils sont pas des grands attaquants, quand même.
Hervé
d'abord.
Dans le problème de Thauvin, c'est un peu son plafond de verre. C'est-à-dire, dès qu'il y a des gros adversaires, il marque pas. Et il a pas été là dans les grands matchs. Et toujours, on se pose la question, parce que quand vous êtes fort, je dis pas avec les faibles, mais disons avec les joueurs de votre niveau ou en dessous, effectivement, vous êtes supérieur à ça. Mais en revanche, maintenant, ce qu'on attend de Thauvin, c'est qu'il fasse la même chose avec des adversaires largement supérieurs. Et ça, il l'a pas encore fait. D'où ce petit décalage entre le nombre de buts et de passes qu'il donne, et la sensation qu'on peut avoir de sa qualité comme joueur. On pense que c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, qui a du talent, qui va vite, mais on sait pas s'il est capable de franchir le petit truc. Il a 24 ans, non?
C'est ça, oui, c'est jeune encore.
Ah, c'est encore un joueur jeune. Alors, est-ce qu'il est capable? Paraît-il que le Bayern s'intéresse à lui?
Oui, on l'annonce partant, en tout cas, à la fin de la saison. L'OM pourrait en tirer peut-être, peut-être 50 millions, non? À l'âge qu'il a.
Pas sûr.
Et quand t'as vendu Mendy en arrière-gauche, ouais. 50 millions,
pourquoi
ça
pas
dépend de la gueule du client.
Voilà, c'est ça.
Je rappelle deux choses par rapport au cap que l'on évoquait, Florent Thauvin. C'est le joueur marseillais qui marque les triplés ces dernières saisons pour l'OM. Donc là, c'était un triplé face à Amiens. Le dernier, en 2018, début 2018, c'était face à Metz. Et avant cela, c'était face à Caen. Le même Marseille qui marquait des triplés, vous avez entendu les clubs que j'ai évoqués, Amiens, Metz, Caen, sont des clubs moindres. C'est là le cap qu'il doit passer. Effectivement, c'est face à ces équipes du top 5, top 6 français. C'est là où, au final, il est peu présent, voire absent. C'est ça son souci. Et puis, je vous rappelle qu'il y a eu quand même son expérience à l'étranger. Alors, il était très jeune, c'est sûr, en tout cas plus jeune que lorsqu'il était à Newcastle. À Newcastle, ça a été un anonyme total. Et ce n'était que Newcastle. Où, entre guillemets, vous avez normalement, si vous êtes au-dessus du lot, vous avez normalement les clés du camion. Et on les lui a donné. Il n'en a jamais utilisé, il n'a jamais utilisé ce camion.
Donc vous pensez que ça y est, il a fait sa tentative à l'étranger, ça n'a pas marché, ça ne peut plus marcher, ou avec quelques années supplémentaires, ça peut...
Qu'il fasse déjà en France, qu'il prouve déjà en France face au gros. Déjà qu'il le fasse vraiment, et après, pourquoi pas, son expérience en Allemagne, en Italie, je ne sais trop, mais qu'il le fasse face au gros, au Paris, Monaco, Lyon. Enfin, Monaco, Lyon en tout cas, ne serait-ce que ça, il le fait pas.
Tout est là. C'est, on va le juger sur ces matchs importants, un peu comme Rudy Garcia. Hein, quand on pense que cette équipe de Marseille n'a pas battu un gros, sauf Monaco cette année. Mais enfin, vous voyez quel gros c'est Monaco.
C'est un
désastre. Donc c'est-à-dire, en gros, ils n'ont pas battu un seul adversaire de haut niveau, enfin qui était au-dessus d'eux dans le dernier championnat et dans le début de championnat. Donc c'est une sacrée limite quand même pour une équipe.
Hein. Oui. Je suis tranquille parce que la semaine prochaine ils jouent contre Reims.
Oh,
il bat pas les grosses équipes.
Et bah, je crois que ça, il y aura pas d'occasion non plus en Ligue Europa parce qu'il me semble que l'OM doit.
Ils sont déjà éliminés.
Oui, mais ils jouent quand même.
Oui, ils jouent effectivement.
Contre Limassol.
Limassol et Francfort aussi.
Un autre grand club. Oui.
Radio Foot International.
Christophe Jousset.
On s'attendait à un match chaud, ça a été tellement chaud qu'il n'y a pas eu de match. Une frustration monumentale pour tous ces supporters qui se régalaient à l'avance de suivre ce super classico qui devait déboucher sur un titre de champion d'Amérique du Sud. Mais voilà, samedi, alors que le quart de Boca était tout près du stade, 2 heures avant le coup d'envoi, des pierres ont fait éclater les vitres. Comment en est-on arrivé là? Je me tourne vers la moitié argentine de ce studio.
Mais Hervé Pelot, donc.
Carlos Bianchi, Alejandro, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, je pense que ce qui s'est passé, on a vu quand même à 10 millions de fois les images. On voit un car qui avance sur une large avenue dans des conditions tout à fait normales avec les éventuels supporters de River tenus à distance. Et tout d'un coup, on arrive dans un carrefour à environ 600 mètres du stade. Et là, tout d'un coup, le car doit se faufiler au milieu des très nombreux supporters de River qui sont pas très heureux de voir un car aux couleurs de Boca Juniors et qui commencent à lui jeter des pierres. Les vitres volent en éclats. Et après, bon, c'est les images qu'on a vues, les joueurs qui, la police qui lance des gaz lacrymogènes, les joueurs qui arrivent dans le vestiaire, qui sont un peu sonnés, certains sont blessés, et la CONMEBOL, la Confédération Sud-Américaine de Football, qui veut à tout prix faire jouer ces matchs, qui est reporté d'abord d'une heure, puis d'une autre heure, etc., plusieurs reprises, puis à dimanche, et finalement le match n'a jamais lieu, parce que les joueurs de Boca s'estiment en condition d'infériorité pour jouer ces matchs et qu'ils sont soutenus par ceux de River qui, du coup, décident de bloquer toutes les tentatives de la CONMEBOL pour faire, finalement, donner le coup d'envoi.
Mais comment le quart de Boca peut-il passer comme ça au beau milieu des supporters de River?
Je t'explique. En Argentine, il y a la police fédérale, la police de l'État. Mais la ville de Buenos Aires, la capitale, à l'intérieur, le maire, depuis plus de 10 ans, il voulait avoir une police à eux.
D'accord.
Et là, maintenant, ils ont une police à eux. Et le même maire, il a dit après le match que c'était la faute à la police locale.
Carlos, on l'a, le maire, là, on va l'écouter. Horacio Rodriguez
Larreta,
le maire de Buenos Aires.
Le problème ici s'appelle mafia des hooligans du football argentin. Et nous n'en sommes pas au premier épisode. Ce qui s'est passé samedi est directement lié à la perquisition effectuée la veille à l'encontre d'individus qui jusque-là pouvaient rentrer dans le stade et qui ensuite en ont été empêchés. Et du coup, ils ont traîné autour du stade, ce qui a occasionné les dégâts que tout le monde a vus.
Je vais t'expliquer quelque chose, ces mafias. Ils sont le chauffeur, le garde-corps, des hommes politiques, des dirigeants de football, etc., etc. Attention, hein, que tous, ils sont tous connus, hein. Le monde, il n'est pas si grand. Il est petit. C'est pour ça que je te dis, ces gens-là sont les chauffeurs. Il y a des gens qui sont chefs de sécurité de certains endroits du ministère, de certains ministères. Alors,
Donc là, le foot est pris en otage par,
parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils veulent.
Politico.
Les gens qui dirigent, ils veulent qu'il soit comme ça.
Alejandro, bon, les responsabilités, voilà.
L'enquête va sûrement permettre d'affiner les choses, même si l'explication que donne Carlos est très proche de la réalité. Après, il y a les polémiques. Les dirigeants de Boca accusent River, veulent que River soit sanctionné. Ils estiment que River n'avait pas assuré la sécurité. River se défend en disant qu'ils avaient payé à la ville pour avoir 3000 policiers qui assurent la sécurité. Bon, c'est une polémique qui va sûrement durer. En tout cas, le refus de Boca de jouer a amené la Confédération sud-américaine à convoquer les deux clubs demain afin de décider de la date à laquelle on va jouer, si on joue, parce que Boca maintenant est entré dans une dynamique où ils veulent imposer des sanctions et ils voudraient même gagner éventuellement sur tapis vert, ce qui peut surprendre, mais bon, c'est un choix qu'ils ont fait.
C'est possible, ça, que ça se
ça
termine comme ça?
Ça paraît très improbable, étant donné que les événements se sont produits en dehors du stade, à plusieurs centaines de mètres du stade même, et que la police a reconnu ses responsabilités dans ces événements.
On rappelle qu'au match aller, ça avait fait deux partout, hein, donc le suspense est entier, Salim.
Mais déjà, au match aller, le match avait été reporté, mais c'était la pluie qui avait fait que le match avait été reporté au lendemain. Là, il y a eu report également au final, donc de nouveau un report. On était ensemble avec Alejandro pour regarder le match. Et en fait,
Regarder quoi?
Pour regarder cette affiche.
Ah, oui, d'accord.
Cet hyper classico qui est devenu un hyper fiasco d'ailleurs, hein. Faut dire les choses aussi. C'est que, quand même, il y a aussi une institution, la Conmebol, qui en sort, ridiculisée quand même dans cette situation parce que, au début, quand même, la Conmebol veut faire jouer la rencontre. La Conmebol, c'est donc sa plus grande compétition, évidemment. La Libertadores, on le rappelle, c'est la Ligue des Champions d'Amérique du Sud. Elle veut faire jouer cette rencontre alors que deux ans avant, des joueurs ont été touchés, blessés, etc. C'est ça le scandale aussi. C'est que la Conmebol n'est pas compréhensive, j'ai envie de dire, dans la situation.
N'écoutant que les enjeux commerciaux.
C'est ça. Excusez-moi. Hein.
Oui.
Ici en Europe, ça fait un an ou deux ans.
Monaco-Dortmund, exactement la même chose.
Pour quelle raison ils ont fait jouer le match?
Financièrement
parlant. Avec un joueur blessé à l'hôpital.
C'est exactement la même chose.
Bien sûr. Ce sont des pays développés, Allemagne, la France.
Mais je ne dis pas le contraire, Carlos. C'est exactement la même chose. Et je le dis de la même manière. C'est totalement idiot que ce soit de la part de l'UEFA il y a deux ans et de la Conmebol il y a deux jours.
Ils ont fait jouer une finale des Coupes d'Europe ici en Europe avec 39 morts et 450 blessés. Et à Bruxelles.
Tout à fait.
Et alors?
Tout à fait. Mais
c'est
même
ça. Et bon, les dirigeants, ils veulent faire des choses, des fois, qu'ils se rendent pas compte de la magnitude du problème.
C'est là où on parle souvent des politiques qui sont déconnectés. Ben là, vous avez l'impression que ce sont des dirigeants qui sont déconnectés de la réalité. Vous avez des joueurs, vous savez, ceux qui sont sur le terrain.
Ben, les dirigeants ne savent pas ce que c'est. Les cravates, tu sais,
c'est bien ça.
Et il y a bien pire. Enfin, pire. Pas pire que le Hazel, évidemment. Mais, en termes de mort, il y a ce qui s'est passé avec le Togo. À la CAN en Angola, 2010. Où eux-mêmes sont attaqués, donc ils perdent quand même un de leurs membres, le gardien a été estropié, enfin handicapé, et au final, c'est eux qui se font suspendre des projets de compétition africaine.
Oui, il y a des exemples comme ça. Mais pour rester sur River Boca et Boca River, pour resituer un peu, en dézoomant, Alejandro, il y a eu des précédents d'épisodes la passion a touché à la déraison.
C'est fréquent en Argentine qu'on ait des incidents autour des stades. On a vu l'année dernière River quand il est allé jouer la demi-finale de la Coupe Libertadores à Lanús, à notre club de Buenos Aires, ils ont été caillassés. San Lorenzo a été caillassé cette année au Chili. Ces types d'événements sont fréquents et encore on limite un peu les dégâts en interdisant aux supporters d'accompagner leur équipe dans ses déplacements. C'est depuis 5 ans, on peut pas le faire et on imagine ce que ça aurait donné si en plus il y avait eu des supporters de Boca dans les parages. Ça aurait été
2015, c'était chaud déjà aussi, non?
2015. Alors oui, là c'est un peu le précédent sur lequel s'appuie Boca aujourd'hui pour réclamer une sanction contre River. En 2015, il y a les huitièmes de finale des Coupes Libertadores. River gagne le match aller au Monumental. Match retour. Première mi-temps, ça se passe bien. Deuxième mi-temps, les joueurs reviennent sur le terrain et un individu jette du gaz moutarde sur le tunnel au moment où les joueurs de River passent. Donc beaucoup de joueurs sont affectés et finalement la Conmebol décide d'annuler le match et de donner match gagné à River Plate. C'est le précédent qu'utilise Boca Juniors aujourd'hui pour réclamer un traitement similaire.
Tout ça crée, entretient le passif.
J'évoquais il y a quelques instants la Conmebol. Il faut rappeler que Gianni Infantino était également présent, le président de la FIFA, même si il a notamment expliqué aujourd'hui que lui n'a jamais évidemment
jeté pierre.
A priori, c'est surtout il n'a jamais dit aux dirigeants de la Conmebol ou aux dirigeants des clubs, il faut absolument jouer le match ce soir, etc. Mais après, dans l'imaginaire, encore une fois, je n'ai aucune preuve. Donc, mais je suis pute, là, je vais le dire. Dans quelques jours, à peine, il y a la Coupe du Monde des clubs. Et il faut un représentant sud-américain, donc Boca ou River, pour jouer cette compétition qui va démarrer le 12 décembre prochain. Et le représentant sud-américain jouera sa demi-finale le 18 décembre. Donc, il faut demander que cette finale se joue assez vite, malgré tout, pour pouvoir avoir ce représentant. Donc, la FIFA... Est-ce que Gianni Infantino a quand même dit ce serait bien les gars de le jouer assez vite? Est-ce que la Conmebol, ça serait bien que vous la jouiez assez vite ce match parce que nous on a besoin d'un représentant? Ça peut faire partie des
choses. Et il a démenti hier justement parce que les supporters de Boca menaçaient d'aller dans son hôtel hier pour lui casser la tête pour avoir voulu imposer de jouer ce match.
Bon, c'est bien d'aller vivre en Argentine. Hein.
Alejandro, pour finir sur la date où ça va se jouer. Alors il y a la date butoir donc du mondial des clubs.
Voilà, 18 décembre. Il faut que les champions d'Amérique du Sud soient aux Émirats Arabes Unis pour affronter peut-être les champions d'Afrique. En tout cas,
le match ne peut pas avoir lieu non plus le week-end prochain parce qu'il y a le G20 à Buenos Aires.
Le G20, là, à partir de maintenant, on ne peut plus jouer à Buenos Aires jusqu'au dimanche, même jusqu'à lundi prochain. Donc l'idée, c'est que le match sera fixé le 8 décembre, probablement samedi 8 décembre, puisque la Conmebol veut un match un samedi. Et mais tout ça, il faut qu'il y ait un accord à Asunción du Paraguay, siège de la Conmebol, où tout le monde va se réunir demain pour essayer de trouver enfin une issue à ce match.
Je vais te raconter, on reçoit des WhatsApp, et alors le ministre de la Défense de l'Argentine, c'est une dame, qui l'a dit, ils ont posé la question, vous croyez que le match de River et Boca a la sécurité nécessaire? Mais si on va organiser les G20, la match de football, c'est un match de football. Il a dit. Alors, ça passe partout.
C'est le bon sens.
Partout, il a dit.
C'est la conclusion provisoire de cette affaire.
Dans la profondeur, Ben Ali, la talonnade avec le crochet et l'ouverture du score. Oh, quelle action! Ben Ali, Raimi qui fait exploser le complexe Mohamed 5. Raimi qui marque le but pour l'instant. Oh, c'est le deuxième! C'est le deuxième pour le Raja qui fait la différence avec encore lui, Raimi, pour le doublé. Pénalty pour Ben Alib face au Camerounais de 38 ans. Ben Alib qui a été deux fois passeur dans ce match et qui aimerait bien marquer son but lui aussi pour faire chavirer le complexe Mohamed 5. C'est dedans, le 3-0, il est là. Le 3-0, il est là pour le Raja.
Eh oui, 3-0 pour le Raja de Casablanca face à l'AS Vita Club de Kinshasa dans cette finale aller de la Coupe de la Confédération. Eric Chorin, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors vous avez suivi cette finale à distance.
Oui, depuis Paris.
Bien suivi et vous avez vu que le Raja a bien géré cette première manche. Il l'a même maîtrisé.
Ah oui, après une première mi-temps déjà totalement dominée par les Marocains. 11 frappes au but contre une pour leurs adversaires. Une possession de balle de plus de 60%. Enfin, c'est des quelques statistiques qui illustrent assez mal finalement même cette domination. Les Rajaouis, ils ont plié le match après le retour des vestiaires en l'espace de 20 minutes parce qu'ils n'avaient quand même pas réussi à marquer lors de cette première mi-temps. Plus de maladresse qu'autre chose et puis un gardien quand même dans les buts en face. Mais à la 47e, il y a cette talonnade de Mahmoud Ben Ali pour Soufiane Raimi qui a enchaîné contre les frappes et a ouvert le score. Raimi qui a doublé la marque à la 61e d'un tir du droit assez soudain des 20 mètres. Et puis Ben Ali qui est le buteur attitré du club qui a transformé un pénalty logique 5 minutes plus tard. 3-0 pour les Marocains devant les 40 000 spectateurs du stade Mohamed 5 qui était bien
grosse
sûr
ambiance, oui.
Aux anges. Très 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 évidemment. Grosse ambiance hier. Ouais.
Au minimum 40 000.
Au minimum 40 000, oui.
Au minimum, parce qu'il y avait une ambiance phénoménale. C'est assez étonnant.
Oui, je vous ai vu, Hervé, d'ailleurs.
Oui, j'étais là. Hein,
ouais.
Pas dans les supporters.
On écoute une petite réaction.
Alors, on va écouter la première réaction. C'est une réaction du côté de l'équipe qui l'a remporté. On aurait pu penser que ce serait un joueur marocain qu'on allait entendre.
Non,
c'est un international congolais, qui plus est ancien du V-Club passé à l'ennemi et qui nous délivre les clés de cette victoire. C'est le milieu de terrain du Raja, Lema Mabidi.
On avait la détermination pour gagner ces matchs. Et il fallait mettre la pression à l'équipe adverse dès le début du match. C'est la chose qu'on a fait cette soirée. Au début du match, on a beaucoup raté, mais on s'est dit au vestiaire que le match n'est pas encore fini. On peut même marquer même à la deuxième mi-temps. Et puis on a continué le même boulot qu'on a commencé au début. Et à la deuxième mi-temps, ça a payé. Et par rapport au match retour, on sait que ça ne sera pas un match facile pour nous. Vita Tep, c'est une grande équipe aussi du Congo. Ils vont mettre la pression, mais on va bien gérer les matchs retour. Et là, déjà, demain, c'est repos. Donc on va faire juste des séances légères pour bien garder la forme dimanche.
Les Mamabidi qui étaient avec Anas Yacine. Et puis Christophe, puisqu'on a entendu un Congolais qui joue au Raja, on pourra entendre tout de suite hein, sur le même format un Camerounais qui lui joue pour les Congolais. C'est Nelson le Kong Bongaman, celui qui en a pris 3 hier, le gardien de but. Papy Nelson, hein, il a 38 ans. Il était déjà de la finale de la Ligue des Champions perdue par Vita sous les ordres de Florent Mbengue il y a 4 ans. Et lui, il veut y croire et il a des raisons d'y croire.
Oui, on a perdu, c'est pas fini. On a encore 90 minutes. Vous faites la différence. Donc, je pense qu'on va jouer aussi devant notre public qui vont nous pousser. Donc, ça ne sera pas tout facile. Raja a gagné 3-0, mais nous aussi, on est capable aussi de faire la même score à domicile. Parce qu'on a gagné certains matchs à domicile avec un score lourd de 4-0, match de tout contre Al Masry. Donc, on croit, c'est pas fini.
Ouais, voilà, c'est pas fini. Bon, il a raison. Il reste encore 90 minutes au moins à jouer. Mais quand même, 3-0, compliqué, hein, pour le V-Club.
Ben, surtout quand on voit le sens de la rencontre. C'est ça, surtout. Il n'y a pas eu de match. De match du tout. C'est-à-dire que c'est 3-0, ça aurait pu faire 4, ça aurait pu faire 5. C'est plutôt le retour du Raja, hein, parce qu'on sait que le Raja a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu des difficultés financières, des difficultés de présidence, etc., etc. Ils ont quand même, ils sont régénérés un peu sur leurs jeunes. Et c'est
eux qui ont fait la différence. Victoire de rang dans la compétition là.
Ouais. Et c'est magnifique hein, ce qu'a fait le Raja. Mais là pour Vita Club, là ça me paraît très très compliqué. Alors je veux bien que le gardien camerounais ait trouvé des exemples effectivement durant cette campagne d'ailleurs, mais
et il en a trouvé. C'est-à-dire que la demi-finale retour, ils ont gagné 4-0 contre les Égyptiens d'Al Masry. Mais en revanche, je ne vous cache pas que Florent Mbengue lui, il était quand même nettement plus sceptique hier soir.
Oui, Salim. Moi je prendrai un autre exemple quand même. Il y a à peine 2 semaines, on évoquait la finale de la Ligue des Champions africaines. Alors certes à l'aller il y avait eu 3-1, pas 3-0, ouais. Mais on avait vu une équipe de l'Espérance totalement aux fraises hein, lors du match aller. Et au retour, il y a quand même eu un revirement de situation. Alors, ce ne sont pas les mêmes clubs, etc. Mais Vita à domicile.
Il y avait eu un arbitrage un peu particulier aussi.
C'est pas faux.
Vita à domicile, c'est invaincu en 2018 dans la compétition. Et puis, du côté du Raja, ce que nous confiait notre correspondant Anas Yacine hier, c'est qu'il y avait quand même pas mal de joueurs un peu touchés qui auraient été revenus de blessures, qui étaient sur le terrain, qui n'auraient pas dû forcément jouer. C'était le cas de Banoun, le capitaine. Il y en a quelques-uns qui ont été touchés. Donc, il craint que l'équipe soit un tout petit peu diminuée au match retour. Et puis, les autres, qu'ils aient envie de mettre beaucoup d'impact, mais à priori là c'est quand même assez mal parti.
C'est beaucoup, hein. Voilà, pour V-Club, remontada ou pas, rendez-vous pour la finale retour à Kinshasa. Et la CAN féminine, eh bien, elle nous attend tout de suite au Ghana. C'est Olivier Pron qui suit cette compétition pour
Olivier.
Nous. Bonjour Olivier.
Entouré des femmes.
Oui, bonjour,
hein.
Bonjour. J'entends que ça queen là derrière. Faites vite, je dois aller au supermarché.
Ah bon, ben on va faire vite. Ça donne quoi cette compétition? On en est à la fin du premier tour. Enfin, le premier tour est joué. Les demi-finales sont affichées. Vous avez vu quelques matchs déjà. Compétition qui se joue à Cape Coast et à Accra. C'est la folie autour des stades, autour des terrains ou bien?
Mais bien sûr, il était grand temps que vous abordiez les vrais sujets dans cette émission. Et donc, enfin, la CAN féminine trouve toute sa place. Au moins, elle trouve sa place sur RFI, parce que je ne vous cache pas qu'au Ghana, je doute qu'elle trouve sa place jusqu'à la fin. Pour l'instant, on a l'expérience des CAN des hommes, où les stades sont pleins, au moins quand le pays hôte joue. Eh bien, au Ghana, les stades sont vides, même quand le pays hôte joue. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une équipe désavantagée par rapport à une autre. Pas de communication, aucun panneau en ville nous annonçant qu'il y a une CAN féminine. Les gens m'ont l'air d'être au courant, en tout cas les chauffeurs de taxi que j'ai pu croiser ici ou là, mais même pour le match décisif de vendredi qui opposait les Ghanéennes aux Camerounaises, eh bien, le stade était très très loin d'être plein, à peine un tiers, et encore c'était à la mi-temps, sinon c'était, je sais pas, 200-300 personnes au coup d'envoi. C'est bien triste, et les Ghanéennes ont quitté le tournoi la tête bien basse et sans pouvoir se dire qu'elles avaient été soutenues par le pays.
Alors on peut espérer au moins que ça s'améliore pour les demi-finales, parce que il y a un vrai enjeu, à savoir la Coupe du Monde, hein, tout au bout du parcours. C'est une place pour la Coupe du Monde 2019 qui se jouera en France l'année prochaine, qui se joue.
Oui, les trois premières équipes de cette CAN iront à la Coupe du Monde. Ça veut dire que pour une fois dans un tournoi, la petite finale ne va pas servir à rien. Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'en général, c'est le match dont tout le monde se moque. Et bien là, ce match-là, la petite finale vendredi, elle offrira aux deux perdantes des demi-finales, celles qui ne seront pas en finale, elles pourront se consoler en disant, si on gagne ce match-là, ben, on sera dans 6 mois en France à la Coupe du Monde. Et ça n'est pas rien, et je peux vous dire que c'est dans tous les esprits, même si dans ces demi-finales, on retrouve pour la plupart des habitués, hein. Cameroun, Nigeria, Afrique du Sud, elles étaient présentes dans les derniers carrés des 7 dernières CAN, toutes les 3 ensemble. C'est vous dire, l'invité surprise, c'est le Mali, on l'a déjà vu.
Salim.
Non, Olivier évoquait il y a quelques instants le Cameroun-Ghana. C'est vrai que pour une fois, j'ai regardé le match, alors parce que l'arbitre était une arbitre mauricienne, Maria River. Je voulais voir comment elle arbitrait.
Pour l'arbitre.
Superviser un arbitre. C'était pour le match, moi.
Non, mais surtout, sur le match, les Camerounaises ont été bougées quand même par les Ghanéennes. C'est pour ça qu'on est presque surpris de voir le Ghana, pays autre, être éliminé ainsi. Après, le Cameroun, grâce à une forte nation évidente du football, est dans ce même groupe. Le Mali, en revanche, a détonné en battant notamment le Ghana de 2-1. Donc, le Mali, et Olivier l'a très bien dit, c'est effectivement aussi une surprise dans cette compétition.
Olivier, l'affiche des demi-finales, c'est Afrique du Sud-Mali, c'est ce mardi donc, Afrique du Sud-Mali et Nigeria-Cameroun. Honnêtement, les deux favoris, on les connaît, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est ça ?
Oui, c'est ce qu'on a vu. Moi, sur les matchs que j'ai vus ici et que j'ai pu regarder ailleurs, l'Afrique du Sud me semble parfaitement préparée. Vraiment. Même si elles ont joué à leurs mains face à la Zambie, elles pouvaient se retenter d'un nul. Ça circule bien mieux. C'est beaucoup plus technique. Elles se préparent depuis janvier. C'est une quête. Elles sont là. D'abord pour la Coupe du Monde et ensuite pour gagner un titre qu'elles n'ont jamais gagné, puisque on rappelle que 8 des 10 CAN jusqu'ici sont allés au Nigeria, les deux autres à la Guinée équatoriale. Ça, c'est très fort. Le Nigeria, qui avait très mal commencé par une défaite face aux Sud-Africaines, cherchait la cerise en battant la Zambie 4-0 et puis la Guinée équatoriale, bon, comme tout le monde, hein, 6-0, ils étaient venus pour faire du tourisme. Mm-hmm. Et puis, il y a le Cameroun revanchard, qui a perdu les 2 dernières finales face aux Nigérianes, qui en 11 matchs face aux Nigérianes n'en ont gagné qu'une seule, n'en ont gagné qu'un de ces matchs, les Camerounaises. Et je peux vous dire qu'il y a une grosse envie, vraiment, de prendre une revanche demain. C'est la grosse affiche de ces demi-finales, hein, Nigeria-Cameroun.
Ouais, face à cet épouvantail quand même du foot africain féminin qu'est le Nigeria, les Camerounaises ont un sacré défi à relever. Alors, vous avez rencontré le sélectionneur des Lions, Joseph Ndoko, qui vous a dit quelques mots avant ce match qui est déjà un match pour la prochaine Coupe du Monde.
Le seul adversaire qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Individuellement, on est en place. On a des gamines qui ont un talent, mais vous savez très bien, le foot, c'est 11. Il faut être capable d'associer ces talents-là et que ça donne un talent, le talent d'une équipe. Et c'est là où on est en train de travailler, essayer de régler un certain nombre de choses. Moi, je suis tellement serein parce que le contenu est bon.
Qu'est-ce qui fait la force du Nigeria ?
Ils ont un jeu direct, ils ne doutent pas. Ils ont l'habitude de gagner. Et l'ont fait en 2016, ils n'avaient pas le match à main, une occasion, un but, un trophée.
Ouais, l'habitude de gagner des Nigérianes. Vous y croyez aux Camerounaises, là, leur chance, Olivier ?
Ce que dit Joseph Ndoko, on croise les doigts pour que ça ne se reproduise pas demain, mais c'est quand même ça le Nigeria. Et je peux vous dire que c'est une occasion, un but, un trophée, il y a 2 ans à Yaoundé. Ah, les Camerounaises, ça passe pas. Alors elles le disent, la pression on l'aura avant, mais au coup d'envoi, on va tout donner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je travaille pour RFI, une radio francophone, donc je veux de la francophonie en finale. Mais je ne suis pas optimiste outre mesure.
Éric Chorin ?
Oui, la seule raison que j'ai, moi, d'être optimiste, c'est que j'ai vu ces 3 équipes, Ghana, Nigeria et Cameroun, face à l'équipe de France lors des matchs amicaux cette année. Celle qui a le plus bougé l'équipe de France, c'est qu'est l'équipe du Cameroun. C'est vrai qu'elle était au complet, alors que les Nigérianes, elles, ne l'étaient pas. Il n'y avait pas leur star, notamment Ochoala, qui a marqué un triplé lors du dernier match. Mais bon, bah, ça donne envie. Et puis, ils ont envie de revenir en France, hein, c'est clair, les Camerounaises, eux.
Et voilà. Ben, tout ça va se passer sous les yeux d'Olivier Pron. Bonne fin de journée, Olivier Pron, à Accra.
À bientôt, Olivier.
Merci messieurs, dernière info de ce Radio Foot, je sais qu'elle va vous plaire. Annie Gasnier revient demain.
Ah
eh oui, en même temps que la Ligue des Champions.